6h03, lundi 11 février. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Ben, on a une veille de tempête hivernale. Ça commence carré cette semaine. D'abord, vous dire qu'aujourd'hui, c'est une très, très belle journée. Profitez-en. Faire le plein de soleil, c'est pas très chaud ce matin, bien sûr. Moins 14, partiellement nuageux. Mais on prévoit du temps ensoleillé avec un maximum de moins 11 pour aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, ciel dégagé. On parle de moins 20 pour la nuit prochaine. Et mardi, les nuages s'installent. La neige commence tard en après-midi avec des vents modérés. Maximum prévu autour de moins 11 degrés. Durant la nuit, on parle d'un minimum de moins 10. Et là, ça veut dire que la neige va commencer vraiment mardi, en fin d'après-midi. Ça se poursuit en soirée toute la nuit avec un phénomène de poudrerie parce que ce sera venteux. Mercredi, neige, poudrerie, venteux, maximum autour de moins 2. Et même dans la nuit de mercredi à jeudi, on prévoit de la pluie, de la neige intermittente. La quantité totale, on ne le sait pas, mais on peut présumer qu'on aura sur deux jours, là, possiblement 25, 30 et certains pensent plus. Là, je regarde les prévisions de Météo Média. Pour mardi, pour Montréal, 20 à 25 cm. Et pour mercredi, 10 à 15 cm de plus. Alors, on verra, est-ce que ce sera 25, 30, 35 cm. C'est quand même pas mal de neige qui est prévue. Maintenant, pour le reste de la semaine, jeudi, on prévoit du temps nuageux, presque pas de neige. Et vendredi, ce sera ensoleillé, moins 6 degrés. Mais la neige va commencer en fin de journée, encore une fois. Et là, il y a un 5 cm de neige qui va s'ajouter, puis un autre 5 cm de neige qui est prévu pour samedi, avant le retour du soleil qui est, jusqu'à maintenant, anticipé pour dimanche. Ça veut dire quoi? Profitez de la journée, là, parce qu'à partir de demain après-midi, la neige va commencer, puis on en a pour pratiquement toute la semaine, avec une forte accumulation. Bon, dans les nouvelles ce matin, beaucoup de choses. D'abord, peut-être juste un mot pour revenir sur le jugement qui a été rendu. Contre Alexandre Bissonnette, le juge qui a imposé une peine minimale à purger de 40 ans. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner. D'abord, c'est un juge qui a pris, toutes les dispositions pour, qu'on prend l'anglicisme, pour se padder, là, 250 pages, des heures à lire son jugement. D'abord, il faut dire que Bissonnette, là, il est condamné à vie. Je pense que c'est ça le plus important, là. C'est pas vrai qu'il va sortir automatiquement au bout de 40 ans. C'est une possibilité. Il faut qu'il purge 40 ans. Donc, il a 29 ans. Ça l'amène à 69 ans avant de penser pouvoir demander une libération conditionnelle. Et c'est pas certain que ça va lui être accordé. Alors, vous imaginez, là, vous arrivez à pratiquement 70 ans et vous n'avez pas vécu en société depuis 40 ans. Alors, comment il va évoluer en prison, on ne le sait pas. Le juge a quand même posé un geste qui n'était pas prévu, là. C'est-à-dire que normalement, c'est 25 ou 50 ou 75. Bon. Alors, tu dis, mais pourquoi il a décidé 40 ans? Et donc, il a comme réécrit l'article de la loi. Parce que, dit-il, un jugement, une sentence, doit correspondre à une réalité. Et on ne peut pas condamner quelqu'un à purger 150 ans en prison alors qu'on sait très bien qu'il ne vivra pas tout ce temps-là. C'est populaire aux États-Unis, les 200 puis les 300 ans de prison, mais ça devient ridicule jusqu'à un certain point. Donc, il a voulu rendre, et c'est un jugement là extrêmement sévère. Je sais que plusieurs porte-parole de la communauté musulmane ont été un peu choqués, s'attendaient à une peine beaucoup plus sévère. Et je pense qu'ils ont nuancé davantage dans la journée de samedi et même au cours de la journée de dimanche parce que ça demeure une peine, évidemment, extrêmement sévère parce que les crimes commis sont d'une gravité, là. Et le juge a rappelé le parcours d'Alexandre Bissonnette. Évidemment, enfance difficile, harcelée, pensée suicidaire, se réfugie dans l'alcool, prend des médicaments, et commence à capoter. Ses parents partent en vacances. Il est convaincu que ses parents vont se faire tuer. Il voit un attentat, il s'identifie à l'auteur de la tuerie. Et ça bouillonne dans sa tête. Et c'est pas un hasard, j'insiste là-dessus, qu'il ait ciblé des musulmans, qu'il ait ciblé une mosquée pour évacuer sa frustration, ses craintes et ses angoisses. On va parler avec une invitée tantôt qui a été son enseignante pendant quelques années, enseignante au secondaire. Elle s'appelle Lucie Côté. Fabrice de Pierrebeau aussi va nous résumer le jugement et la journée également de vendredi. Ce matin, dans la presse, on nous parle d'une brèche importante dans la sécurité du premier ministre Trudeau. Il semble qu'il y a des gens qui ont pu obtenir du matériel informatique crypté, des informations concernant M. Trudeau, les noms des agents de la GRC qui assurent sa protection, leur numéro de passeport. Ça a été volé à un fonctionnaire canadien qui est en train de planifier une visite de M. Trudeau, une rencontre avec les gouverneurs américains, au Rhode Island en juillet 2017. Il semble que le véhicule de location d'un fonctionnaire a été la cible d'un vol dans le stationnement d'un parc national au Connecticut. L'employé en question, qui était accompagné de sa femme, était sorti pour aller faire un petit tour, une petite randonnée. Et il semble qu'il se soit fait voler donc ces informations. Un document interne du commissariat à la protection de la vie privée au Canada fait état de détails des items personnels et professionnels de l'employé volés dans le coffre de la voiture. Donc, ordinateur portable, une clé de cryptage, des dispositifs de BlackBerry, un jeton de sécurité, un outil d'authentification pour accéder à un système d'information. Alors, est-ce que ça a été, volé par des gens qui avaient de sombres desseins à l'endroit de M. Trudeau? Est-ce que c'est un vol? Tout court, ça arrive. Quelqu'un pense qu'il vole un portable puis se retrouve avec des... avoir entre ses mains des items importants pour la sécurité du premier ministre. Alors, disons que c'est pas banal. Vous avez vu les chiffres compilés par la CBC concernant les entraîneurs qui sont accusés de délits sexuels au Canada. En 20 ans, 340 entraîneurs, plus de 600 victimes. Et ça, c'est ce qu'on sait. Parce que quand vous regardez ces 340 entraîneurs, là, il y en a 222 qui ont été condamnés pour des gestes envers des victimes d'âge mineur. Et actuellement, 34 dossiers additionnels sont toujours devant les tribunaux. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? J'ai vu les réactions hier des gens qui disent qu'il faut rassurer les parents, il faut que les fédérations de sport s'équipent de règlements pour rendre ça transparent. Vous avez le droit comme parent de savoir pour quelle raison tel entraîneur est barré ou pourquoi il a été expulsé. Et tout ça pour éviter les nombreux scandales qui ont frappé, que ce soit le hockey mineur, que ce soit la gymnastique, que ce soit le ski. On l'a vu avec les grands procès. Et l'autre chose, c'est une partie, évidemment, de la réalité. Parce que beaucoup de gens ne portent pas plainte, parce que des gens arrivent comme ça à naviguer. Et en termes de chiffres, ce qui est intéressant aussi, d'abord, il faut dire que les accusations sont pour agression sexuelle, exploitation sexuelle, fabrication ou possession de matériel pornographique, donc des gens qui naviguent sur le web et qui profitent de leur proximité d'enfant pour commettre des abus comme ça. Mais je regardais les sports. C'est évident que les sports les plus populaires, c'est là où on a le plus de problèmes. Si vous prenez le hockey, si vous prenez le soccer, vous retrouvez quand même pas mal de cas. Il y a seulement 9 des 222 condamnations qui touchent des femmes entraîneurs. Par contre, les victimes, contrairement à ce qu'on voit normalement, c'est autant des petits gars que des petites filles. Souvent, les victimes d'abus sexuels sont des petites filles, très majoritairement, ce qui n'est pas le cas. Là, c'est vraiment à peu près à égalité. Alors, la leçon à retenir, et là, il ne faut pas non plus être paranoïaque, mais il faut être vigilant quand on confie des enfants à des adultes, parce que c'est clair que ceux et celles qui sont attirés par des enfants vont tourner autour d'endroits où les enfants sont nombreux. Puis le sport amateur, puis le fait d'occuper un poste d'autorité, c'est clair que ça excite certains pédophiles et ils arrivent comme ça souvent à se frayer un chemin vers les enfants. 6h13, marque les points chauds de ce début de journée. Très bien, on va parler d'immigration. J'ai reçu beaucoup de courriels de gens qui sont touchés là, dans les 18 000 qui voient leur demande aller au panier. et qui sont évidemment soit en maudit, soit complètement découragés. Dans les journaux, vous allez en voir plein qui témoignent de gens, par exemple, qui comptaient sur, je pense, le Journal de Montréal, qui parle d'un forgeron qui travaille dans l'arrondissement Saint-Léonard à Montréal, qui attend depuis un an un Français qui a la formation et qui est prêt à venir travailler ici. Bon, puis il y en a d'autres comme ça. Ce qu'il faut dire, je pense, sur l'immigration, là, d'abord, les fameux dossiers, là, les 18 000 dossiers dont on veut se débarrasser, j'aimerais ça qu'on me fasse une ventilation, moi. J'aimerais ça savoir, par exemple, quand on nous sort celui de 2005, ça veut dire quoi, ça, 2005? Depuis toutes ces années-là, le dossier est ouvert et aboutit pas. Pour quelle raison? Manque d'information de la part du demandeur, puis le dossier reste ouvert. Est-ce que c'est parce que les fonctionnaires ont taponné puis ça avance pas? Il y a un mystère dans ça. Donc, on va sans doute nous-mêmes faire la demande. Mais j'aimerais ça savoir de quoi on parle. Est-ce qu'il y en a de ces dossiers qui sont bloqués par Ottawa pour des raisons de sécurité? C'est une autre question qu'on peut poser. Puis le fédéral aussi s'était débarrassé de dossiers. Ça, c'est la première affaire. Deuxièmement, dans toute la gymnastique proposée par Simon Jolin-Barrette, dans l'avalanche de mots qu'il nous sert, là, il y a quand même pas mal de confusion. On sait que le fédéral a dit non à plusieurs de ses demandes. Et l'idée de pouvoir arrimer le marché du travail avec les nouveaux arrivants, tu dis, c'est parfait, c'est normal puis c'est logique. Mais pour la suite des choses, on sait très bien qu'on ne peut pas visser quelqu'un dans une région. Est-ce qu'on doit faire des ententes pour dire, si vous venez au Québec, vous devez vous installer minimum pour 3 ans, mais si la personne décide de s'en aller dans une autre province, ça limite pas mal les choses. Donc, qu'on attire les gens qui puissent répondre aux besoins en termes de main-d'œuvre, c'est une affaire. Et de les empêcher de bouger sur le territoire, puis même de quitter le Québec, ça m'apparaît un peu fort et quand même un peu charrié. Le dossier maintenant de SNC-Lavalin. Le nouveau ministre de la Justice, David Lametti, a donné une entrevue hier au réseau CTV. Et lui, il est pas mal plus conciliant que Mme Wilson-Raybould, qui a l'air d'une personne quand même assez spéciale. Quand on regarde ce qui s'est écrit sur elle en fin de semaine, problème avec ses chefs de cabinet, genre colérique. En fait, lui, il dit qu'il est prêt à regarder la possibilité de se servir de cette disposition qui permet au fédéral de régler hors cours avec des entreprises comme SNC-Lavalin. Donc, c'est quoi le règlement? Ben, vous payez une amende, vous prouvez que vous avez corrigé les lacunes à l'interne, que les coupables de la corruption, on sait que ça touche un dossier en Libye, sont maintenant ailleurs et que l'entreprise se comporte mieux. Comme je vous le disais, quand vous parlez de la Libye, c'est clair qu'à peu près toutes les entreprises ont dû utiliser des subterfuges, puis des prête-noms, puis des fausses compagnies pour passer comme ça une série de pots de vin. Mais là, le ministre ne veut pas se prononcer davantage. Les procédures, je pense, commencent cette semaine à Montréal. Alors, il dit que sur le principe, il est d'accord pour peut-être regarder une entente possible avec SNC-Lavalin. Question de sauver l'entreprise et évidemment les milliers d'emplois. Deuxièmement, il n'en demeure pas moins qu'il y a 23 000 points d'interrogation sur le rôle du bureau du premier ministre. On peut bien jouer sur les mots, là. Il n'y a pas eu de directive, mais certains laissent sous-entendre que ça a brassé et qu'il y a de la pression qui a été exercée sur la ministre et qu'elle ne voulait pas. Puis c'est à peu près certain qu'elle a sauté pour cette raison-là. Puis là, on a mis quelqu'un plus d'accord avec l'idée de pouvoir régler avec SNC-Lavalin, donc dans le Globe and Mail ce matin. Puisqu'on parle de SNC-Lavalin, la Gazette qui ramène l'histoire de ce témoin qui nous dit que dans le fond, Pierre Duhem, là, qui a eu une tape sur les doigts, là, c'est une farce, d'ailleurs, la sentence, là, de 20 mois à purger dans la communauté, puis des travaux de bénévolat, puis 200 000 de dons à des œuvres de charité, que lui en savait pas mal plus. Tu sais, l'espèce d'aveuglement volontaire, là, pense qu'il a joué un rôle plus important. Et ce témoin-là, visiblement, ça n'a pas été retenu. Parle de conversations téléphoniques et de directives données pas très subtilement par M. Duhem pour que les pots de vin soient versés dans le cadre de la plus grande fraude, plus grand scandale de corruption au Canada, c'est-à-dire le centre universitaire McGill, Centre de santé universitaire McGill. Parlons des îles de la Madeleine. C'est dans Le Devoir, puis aussi, il est ouvert dans la presse ce matin. C'est le maire, Jonathan Lapierre, qui dit qu'à long terme, il est inquiet pour la survie des îles en raison des changements climatiques. Il donne plusieurs exemples. Et rappelons-nous cette tempête du 29 novembre dernier. Je le cite, « En une seule nuit, des portions entières de dunes, de haltes routières et d'infrastructures de toutes sortes ont disparu à la mer. Durant cette nuit, le recul du trait de côte prévu dans les différents modèles disponibles à ce jour a été celui équivalent à plusieurs années de tempêtes successives étalées donc sur une longue période de temps. Il parle d'érosion accélérée, un phénomène important. Entre 2004 et 2016, nous avons enregistré un taux moyen de recul de 50 cm par année. Et depuis 2016, c'est 60 cm. Et si vous allez aux îles, vous êtes en mesure de constater le phénomène de l'érosion. Donc, il veut une stratégie nationale. Lui, en tout cas, il y croit au changement climatique puis il est capable de mesurer. Le ministre de l'Agriculture, là, on ne sait pas trop là, ce qu'il veut dire encore. André Lamontagne, d'ailleurs, qui est allé à une activité de l'Union paysanne, congrès de l'Union paysanne, qui est plutôt rare. C'est la première fois qu'un ministre de l'Agriculture va rencontrer ces agriculteurs qui sont des dissidents de l'UPA. L'UPA qui a le monopole, évidemment, syndical. Et là, samedi, c'est rapporté ce matin à Radio-Canada. C'est pas ce qu'il veut dire. Alors, me prononce pas trop. Il parle des ayatollahs du ministère de l'Environnement qui veut rendre lui-même, enlever les contraintes, puis ce qui énerve les petits producteurs. Mais quand vous regardez la citation, c'est pas trop clair. Il dit qu'il a parlé avec le nouveau ministre de l'Environnement. Il dit qu'il y a un gros tampon pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de santé publique et de salubrité. Mais moi, la question que j'ai posée, est-ce qu'on peut réduire ce tampon-là à un moment donné? Est-ce qu'on n'a pas viré fou? N'est-ce pas trop? C'est assez confus. Est-ce qu'on croit comprendre que M. Lamontagne veut réduire les règles environnementales en matière d'environnement, en matière d'agriculture? C'est quoi que ça veut dire, là? C'est pas. Puis quand il va voir le ministre qui parle des ayatollahs du ministère de l'Environnement, un ayatollah, par définition, c'est quelqu'un qui est strict, qui applique la loi. Dans ce cas-ci, c'est la loi sur l'environnement. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Peut-être qu'il va nous préciser ça bientôt. Avis aux opposants au registre des armes à feu. L'opposition au registre a fait grimper les coûts de sa promotion à 660 000 $, soit près de 10 % du budget de mise en place. Québec a dépensé dans la dernière année 660 000 en publicité et en promotion pour inciter les gens à enregistrer leurs armes à feu. 10 % en pub. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui s'opposent, qu'il y a un lobby qui s'exprime. Fait qu'on a dépensé 600 000 $ pour dire aux gens de s'inscrire. Questionnable. Journal de Montréal, ce matin, on revient sur, appelons ça la nostalgie de la commission Charbonneau, quand tous les corrompus défilaient l'un après l'autre. Je parle évidemment des Robert Marcille de ce monde, qui occupaient des postes stratégiques. Et là, on revient sur le dossier de l'ex-chef de division, Laurent Gravel, qui a empoché pour 85 000 $ de pot de vin, a voyagé 26 fois aux frais des entrepreneurs, des voyages de pêche, des voyages de chasse. Là, il comparait devant l'Ordre des ingénieurs du Québec. Puis il dit que je n'étais pas au courant de la collusion, mais je m'en doutais. Ah bon? Et que les pots de vin, de toute façon, ça ne change rien aux décisions que j'ai pu prendre. Tu sais? Un peu pour des imbéciles. Alors là, évidemment, c'est le syndic qui réclame la radiation à vie de M. Gravel. Puis quand je vous dis que c'est une page de nostalgie, on retrouve les noms du sympathique M. Marcille, on retrouve les noms de M. Trottoir, vous avez également Michel Lalonde qui apparaît aussi sur la liste, et la carte, vous allez revoir la carte là, des voyages dans le Grand Nord, Labrador, Nunavut, à plusieurs reprises, la Côte-Nord, la Beauce, Anticosti. C'est un monsieur qui aime beaucoup la chasse et la pêche, fait qu'il s'est fait graisser solide. Et là, évidemment, il essaie de se défendre. Ça fait le tour de nos manchettes pour ce matin. On fait la pause, 6h23. Le Pont-Mercier.